Sharon Jones and the Deep Kings pour cette tête au carré en hommage à Stephen Hawking.
Vous devrez faire ce que je dis, mon QI est de 190, monde ancien 187.
Et de la rigolade, j'ai un QI de 280.
Oh, oh, Stephen Hawking,
l'homme le plus intelligent de la Terre.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Je venais observer la ville des utopistes. En fait, je m'aperçois que c'est plutôt celle des fumistes.
Je pense que ce que le professeur Hawking veut dire...
Non. Je n'ai besoin de personne pour parler à ma place. Cette boîte vocale me suffit.
Voilà, superstar Daniel.
Oui, superstar devenu aussi populaire au point de rentrer dans ce dessin animé Les Simpsons. Et d'ailleurs, alors là c'est la version française, mais dans la version américaine, c'est le vrai synthétiseur vocal et il était allé enregistrer la voix, hein, vous le confirmez, Christophe Galfard.
Il était à Los Angeles pour enregistrer là-bas dans les studios des Simpsons eux-mêmes.
Ça montre qu'il a de l'humour.
Énormément d'humour, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit là dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est vrai, il détestait qu'on lui coupe la parole.
Et qu'on essaye de finir ses phrases.
Ouais,
même si ça prenait du temps, il fallait avoir la patience de l'écouter.
Exactement, face à 13 ou 14 milliards d'années, qu'est-ce que quelques secondes de plus, hein.
Ça l'amusait ou il s'enorgueillissait de cet engouement populaire autour de sa personne? Comment il vivait ça?
Non, ce qu'il voulait absolument, enfin, c'est toujours difficile de mettre des mots dans la bouche d'autres personnes. Mais ce que je ressentais moi de ça, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi, c'est de voir cet engouement du grand public. Alors en France, il est connu, mais absolument rien à voir avec les pays anglo-saxons. C'est un demi-dieu dans le reste du monde. On ne pouvait pas faire 50 mètres dans la rue sans qu'il y ait un embouteillage. Les gens s'arrêtent, les gens voulaient le toucher, les gens voulaient lui parler, prendre une photo, se déshabiller parfois, c'était n'importe quoi.
Ah bon ? Ah oui.
C'est vraiment une icône de rock, une rock star un peu quelque part de la science. Et lui, c'est pas vraiment une fierté ou l'enorgueillement qui tirait de ça, c'est une volonté profonde, politique, presque, de faire partager avec le plus grand nombre un savoir qui appartient au plus grand nombre. D'utiliser l'humour, etc., c'était parfait parce que ça correspondait à sa personnalité. C'est marrant parce que certaines émissions humoristiques comme les Simpsons ou Big Bang Theory et tout ça, on sentit que avec l'humour, on peut faire passer des concepts extraordinairement compliqués. Et puis ça démystifiait un petit peu aussi la complexité de ce genre de savoir. Il y a 20 ans, quand vous alliez à un dîner et qu'on disait qu'on faisait de la physique théorique, les voisins du dîner vous regardaient en disant « je suis mal tombé ».
Oui, c'est ça.
J'ai pas eu de bol. Grâce à des personnes comme Stephen Hawking, le rêve revient, la volonté de comprendre, de découvrir, etc.
Alors, petite parenthèse, énormément de messages sur le site pour nous dire, par pitié, on dit Stephen et non pas Stephen. Mais non, on dit Stephen Hawking.
Bah moi, je dis Stephen.
Voilà. On a le droit de dire Stephen Hawking, Nathalie.
Son nom officiel est Stephen. On l'appelle
Stephen,
et certains l'appellent Steve.
Voilà, donc pour ça, on va continuer avec Stephen Hawking. Cédric Villani, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct pour cet hommage à Stephen Hawking, avec évidemment ces hommages qui se succèdent aujourd'hui. Vous avez salué, Cédric, ce matin, la faculté de synthèse et de rêve de ce vulgarisateur de génie. Ce sont vos propos, hein.
Oui, parce qu'évidemment, il y a Stephen Hawking, le grand scientifique très original, celui qui arrive à manier... à la fois la théorie de la relativité générale à la Einstein, les concepts de physique statistique, et qui plonge au cœur des nouvelles connaissances sur les trous noirs. Et il y a le Stephen Hawking, vulgarisateur extraordinaire, qui a fait rêver des générations de jeunes et de moins jeunes, découvrant la physique théorique comme une science tellement pleine d'imagination.
En tant que mathématicien, Cédric Villani, est-ce qui vous a inspiré, Stephen Hawking?
Je dirais que la figure de Stephen Hawking est inspirante pour tous les mathématiciens, tant on retrouve chez lui cette idée du mathématicien arrivant à découvrir des secrets du monde par la force de son esprit, par la façon qu'on a de triturer les équations. Et dans le cas de Hawking, bien sûr, la maladie qui le clouait, qui le paralysait physiquement, ne faisait que ressortir d'autant plus le contraste avec son extraordinaire esprit extrêmement agile. On aime bien en mathématiques dire que les qualités les plus importantes sont l'imagination, la ténacité et la rigueur. Et avec Stephen Hawking, imagination et ténacité, on avait là des exemples extraordinaires.
C'était un bon mathématicien, Stephen Hawking. On sait, par exemple, qu'Einstein parfois se plaignait de ses difficultés en mathématiques. Est-ce que lui était à l'aise avec les mathématiques?
Oui, alors il faut pas prendre Einstein au sérieux quand il se plaint de ses difficultés en mathématiques, bien sûr. Là, il fait son modeste, mais la vérité, c'est qu'Einstein était excellent en mathématiques, même s'il a dû, pour les besoins de sa relativité générale, se faire aider par d'autres mathématiciens plus spécialisés que lui, comme Grossman. Pareil, il fait pas de doute que Stephen Hawking était excellent dans son maniement des concepts mathématiques de première classe. Et évidemment, ça s'inscrit dans les travaux de la renaissance de la relativité générale, avec aussi une grande figure comme Sir Roger Penrose. Et c'est là justement qu'on voit comment la manipulation de concepts mathématiques sophistiqués arrive à vous faire découvrir des concepts physiques qui échappaient à l'intuition.
Cédric Villani, en tant qu'élu de l'Essonne, vous devez remettre donc à la fin du mois là, au gouvernement d'Édouard Philippe un rapport très attendu sur l'intelligence artificielle. Alors justement, un mot là-dessus, parce que les derniers propos très marquants de Stephen Hawking justement concernent les outils technologiques comme les intelligences artificielles. Et on sait à quel point il a envoyé des messages ultra pessimistes à l'humanité entière. Comment vous réagissez justement à ces dernières paroles à la fin de sa vie?
Je pense que c'est mon interprétation, et d'autres qui ont eu l'occasion d'en discuter davantage avec lui pourront peut-être nuancer mes propos, mais je pense qu'on attendait de Stephen Hawking la capacité d'imaginer les choses invraisemblables, voire impossibles, et que c'est là-dessus qu'il a fait sa carrière, en découvrant des choses extrêmement originales, et qu'il était normal qu'il prédise aussi des développements encore plus spectaculaire que le raisonnable dans le cadre de l'intelligence artificielle. Cependant, pour tous les experts en intelligence artificielle, tous ceux que j'ai pu consulter, tous ceux avec lesquels j'ai travaillé pour le rapport, il n'y a aucun doute que les dangers à venir pour les années et décennies qui viennent dans l'intelligence artificielle ne concerne pas tant l'intelligence artificielle en elle-même que les humains qui sont derrière. Dangers peuvent être de nature économique, peuvent être de nature souveraine, je veux dire, dans le cas de conflits, peuvent être liés à la compétition entre acteurs ou l'utilisation à des fins immorales de l'intelligence artificielle, mais ce sont bien les humains qu'il faut craindre pour l'instant et pour de longues années encore à venir à travers l'intelligence artificielle. Et il s'agira de mettre en place les garde-fous qui conviennent. Notre rapport s'y emploiera. Toute nouvelle technologie vient avec de nouveaux dangers et ça fait partie du travail habituel de l'humanité que de mettre les bons garde-fous pour pouvoir en profiter.
Merci beaucoup Cédric Villani. Juste un mot très rapide, vous êtes à Auxerre aujourd'hui, il y a un rendez-vous mathématique justement pour le public.
Alors, aujourd'hui est un jour très particulier, c'est le Pi Day, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, 3-14, le 14 mars. C'est aussi la date, et 3-14 étant bien sûr, vous l'aurez compris, le début du développement de Pi, 3,14159, etc. C'est aussi la date anniversaire d'Albert Einstein. On apprend aujourd'hui que ça correspond au décès de Stephen Hawking. C'est une date scientifiquement marquante, donc à plus d'un titre, et c'est la date que j'avais choisie pour un exposé à Auxerre, ville natale de Joseph Fourier. Fourier, un très grand physicien, un très grand mathématicien, l'un des pères de la physique mathématique dans laquelle s'inscrivent Einstein et Hawking. Et Joseph Fourier est né à Auxerre. Joseph Fourier est né il y a 350 ans, jour pour jour. C'est une année de commémoration nationale cette année pour Fourier.
Merci.
Et donc, c'est l'endroit et le lieu que j'ai choisi pour cet hommage.
Merci Cédric Villani. Alors vous nous disiez juste une précision, c'est aujourd'hui aussi la date anniversaire de la mort d'Albert Einstein, c'est ça?
Non, je disais le décès de Stephen Hawking, mais c'est la naissance d'Albert Einstein, oui.
Naissance d'Albert Einstein, voilà, incroyable quand les rendez-vous et les dates se télescopent. Merci beaucoup à vous, Christophe Galfard, un mot.
Ça fera une belle parenthèse, il est né le jour de la mort de Galilée et mort le jour de la naissance d'Einstein.
Absolument incroyable. Daniel Fievé, autre...
Après, comme disait Stephen et Feynman, il faut faire attention aux chiffres et à ce qu'on en tire.
Autre invité de cette spéciale consacrée à Stephen Hawking, le physicien théorique physicien Thibaut Damour, vous l'avez eu au téléphone ce matin.
Oui Mathieu, c'est l'un des grands noms de la physique théorique, il s'était lié d'amitié avec Stephen Hawking et je lui ai demandé donc ce matin dans quelles circonstances il avait rencontré Stephen Hawking.
À la toute première rencontre, quand j'avais 23 ans, j'ai entendu une conférence de Stephen aux États-Unis qui m'avait beaucoup impressionné puisque à l'époque, il n'utilisait pas encore un ordinateur pour parler. Et donc, en fait, je n'ai rien compris à son anglais puisqu'il parlait avec sa voix naturelle. Et après, j'ai eu la chance de le rencontrer en personne. Et fort gentiment, quand il passait en France, souvent il venait me voir, y compris passer des week-ends chez nous à la campagne. Mmh.
Ce sont des liens amicaux qui se sont tissés au fil des ans avec Stephen Hawking. Quels souvenirs vous gardez de vos discussions ?
D'abord, j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et de chaleur humaine, puisque indépendamment des discussions scientifiques, on faisait de la musique ensemble. Je veux dire, sa première femme chantait et je me rappelle l'avoir accompagnée au piano. Et puis pendant les repas, c'était quelqu'un qui s'amusait, qui posait des questions. C'était quelqu'un en fait de très chaleureux avec beaucoup d'humour.
Oui.
Discuter science avec lui était toujours difficile à cause de ses problèmes de communication. Mais en fait, je lui avais posé plusieurs fois des questions sur l'interprétation de la physique quantique et j'ai trouvé ses réponses tout à fait intéressantes et illuminantes.
Mmh. Les discussions avec lui sur les thèmes scientifiques demandaient-elles une attention, une concentration particulière ?
Au début, cela allait relativement rapidement, en ce sens que vous savez qu'il avait devant lui un écran sur lequel passaient des mots. Mmh. Et donc, à l'époque, il y a quelques années, il pouvait utiliser son pouce de façon très agile pour pouvoir, avec une souris, sélectionner les mots qui passaient sur l'écran. Et comme ça, il faisait des phrases. Et donc, il pouvait répondre assez rapidement. Les dernières fois où je l'ai vu, malheureusement, son état de santé s'était aggravé, son pouce ne fonctionnait plus, et donc du coup, la communication devenait beaucoup plus lente et plus difficile. Mais je me souviens d'il y a un certain nombre d'années, on pouvait, bon, c'est pas une conversation comme avec quelqu'un qui va très vite, mais c'était des vraies conversations avec des discussions scientifiques, il pouvait trouver les mots rapidement, répondre, et il concentrait souvent en quelques mots des réponses importante, donc il fallait effectivement bien réfléchir à ce qu'il était en train d'écrire et de vous dire.
Oui. Thibaut Damour, vos recherches portent sur la théorie de la relativité d'Einstein et puis sur les trous noirs ou encore les ondes gravitationnelles. Vous connaissiez très bien et vous connaissez très bien les travaux d'Einstein et ceux de Stephen Hawking. Alors selon vous, peut-on mettre Einstein et Hawking sur le même plan, comme beaucoup le font ?
Non, je ne dirais pas ça. Stephen est un des grands physiciens théoriciens spécialistes de relativité générale du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il a apporté des contributions marquantes qui resteront sur la cosmologie, sur la théorie des trous noirs classiques et surtout sur les aspects quantiques des trous noirs. Mais contrairement à Einstein, il n'a pas créé de nouveaux cadres de pensée, de nouvelles théories. Donc il n'est pas dans la même catégorie qu'Einstein, même s'il reste un très grand scientifique dont le nom restera dans l'histoire de la physique.
Mmh. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous garderez en mémoire comme souvenir de votre ami ?
Je garderai un souvenir de soirée avec lui. Je me rappelle une des dernières soirées avec lui à Cambridge, c'est lui, où il voulait jouer à un jeu que je ne connaissais pas, d'ailleurs un espèce de jeu de dames ou d'échecs simplifié qui s'appelait Othello.
Ouais.
Et là, j'ai vu qu'il voulait absolument gagner. C'est-à-dire, je jouais, et au bout d'un moment, même si je connaissais pas les choses, j'ai gagné le dernier point, et on voyait que lui, il voulait gagner, alors il a réussi, après les coups de minuit, je lui avais dit que je partirais à minuit, mais au moment où minuit sonnait, il a fait un nouveau coup qui lui permettait de gagner, alors je lui ai dit, bon, ça va, Stephen, tu as gagné, mais on voyait son énergie dans la vie, malgré ce handicap, malgré ses douleurs, malgré toute sa maladie qui l'handicapait, on voyait l'énergie qui le maintenait vivant. Il voulait dominer, il voulait comprendre, il voulait être là.
Merci beaucoup Thibaut Damour de nous avoir parlé de votre ami Stephen Hawking.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était Thibaut Damour donc, que vous avez eu ce matin au téléphone, Daniel Chiévé. Christophe, est-ce que vous avez joué aux échecs avec Stephen Hawking ou pas?
Alors, je connaissais pas cette anecdote de Thibaut, mais j'en ai une un peu similaire. En même temps que moi, un autre étudiant de Stephen, et on partageait le bureau, et cet étudiant était russe et il était champion de Russie d'échecs, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et à un moment, Stephen l'a appris et l'a regardé à déjeuner, comme on déjeunait tout le temps avec lui. Il dit, mais pourquoi tu perds ton temps à faire des échecs alors que tu pourrais être en train de résoudre des équations de la nature, les mystères de la nature? C'est peut-être parce qu'il s'est dit qu'il allait se faire battre aux échecs qu'il a dit ça.
Allez, on poursuit cette émission hommage à Stephen Hawking avec Hubert Reeves qui sera en ligne avec nous dans un instant, et ce sera juste après Françoise Hardy et Le Large.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Sera loin, donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi. Aucun requin, aucun air triste. Aucun regret, aucun séisme. Aucune langue de bois. Aucun chaos, aucun, aucun. Et demain, tout ira bien. Sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Mon nom est Stephen Hawking. Je suis convaincu que les humains doivent quitter la Terre. Nous devons utiliser notre curiosité et notre intelligence pour regarder vers les étoiles et nous installer sur une nouvelle planète. pour m'aider à découvrir où et comment nous pourrions établir une colonie extraterrestre, j'ai fait appel à mon ancien élève et ami, le physicien et écrivain Christophe Galfard.
Voilà, Christophe, c'était vraiment une de ses préoccupations à la fin de sa vie, ça, de pouvoir imaginer aller coloniser d'autres planètes.
Ben, oui, comme mille autres choses qui l'intéressaient. Et le... Mais voilà, une des choses qu'il a gardées tout au long de sa vie, il me semble, c'est une fois de plus, c'est de garder le doigt sur ce qui fait mal, faire attention aux choses. L'intelligence artificielle, ça comporte des dangers. Mmh. Cédric Villani, tout à l'heure, disait, oui, dans les prochaines années, c'est l'homme qui est derrière. Mais les prochaines années, Steven, il s'en fichait pas mal. C'est ce qui lui importait, c'était le long terme, c'était la survie de l'espèce, la survie de l'humanité. Et voilà, il était particulièrement humain.
Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cet hommage à votre confrère astrophysicien Stephen Hawking. Vous citiez ce matin dans la presse aux journalistes qui vous ont interrogé cette phrase favorite de Stephen Hawking, le trou noir n'est pas si noir que ça.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours incroyable de Stephen Hawking? Est-ce que vous l'avez rencontré?
Oui, je l'ai rencontré à Cambridge, Angleterre, quelques fois. Mmh.
Et que gardez-vous donc en mémoire, Hubert Reeves?
Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est remarquable sur deux plans différents, mais très, très important. D'une part, c'est quelqu'un qui est un modèle, dans le sens que quand il a appris, il y a une vingtaine d'années, qu'il allait mourir rapidement, il a décidé, ben, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire ce que j'ai envie de faire, de l'astrophysique, et il s'est plongé dans l'astrophysique, et il a fait vraiment révolutionner tout un domaine de l'astrophysique, qui est celui des trous noirs, et qui, 20 ans plus tard, qui a duré 20 ans, c'est comme un triomphe de la volonté de contre la mort. Ça, c'est le premier exemple. Premier élément où il a donné quelque chose de fondamental. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il a apporté des choses très importantes dans le domaine de l'information, de la relativité générale, de la physique quantique. Il a essayé, il a fait un grand travail pour réconcilier la physique quantique et la relativité. Ce sont les deux problèmes majeurs de la physique contemporaine. Et sur ce plan, il a fait de grandes avancées qui continuent à être discutées un peu partout.
Est-ce qu'il a été controversé, Stephen Hawking, ou pas, Hubert Reeves?
Oui, il a été passablement controversé en Angleterre. Il y a beaucoup de chercheurs en Angleterre et aux États-Unis qui ne sont pas de son avis. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'éléments, par exemple, au sujet des trous noirs et de l'information, où il y a un grand débat qui dure déjà depuis longtemps et qui, à mon avis, est loin d'être réglé. Donc, il faisait partie des chercheurs qui étaient les plus influents dans ce domaine.
Marie-Odile.
Oui, mais moi, je voudrais profiter du fait que Hubert Reeves est là pour lui demander, en 81, vous avez fait comprendre à toute la France, en tout cas, au monde francophone, dans quel univers nous vivions avec votre livre Patience dans l'azur. Alors, Stephen Hawking, lui, a fait paraître une brève histoire du temps qu'il a fait connaître auprès du public quelques années plus tard. Quand vous avez vu arriver cette œuvre de Stephen, comment vous avez réagi? Parce que il y a deux forces une force qui fait que vous vous ressemblez, c'est ce désir incroyable de faire comprendre au monde entier dans quel univers nous vivons, un univers en expansion, un univers qui a une histoire, un univers qui a un début. Enfin, oui, j'ai pas de questions là, en fait. Mais vous me comprenez, Hubert, ce que je veux dire, c'est que vous, de ce point de vue, vous vous ressemblez, quoi. C'est ça que je...
Oui, je crois qu'il avait lui aussi un grand désir que des choses intéressantes découvertes par l'astronomie puissent être rendues faciles à comprendre, publiques, pour que les gens qui s'intéressent à l'astrophysique, mais qui n'ont pas le langage pour comprendre ce qui se dit, puisse comprendre en gros de quoi il s'agit, quels sont les progrès et quels sont les problèmes qui se posent encore aujourd'hui en astrophysique.
Christophe Galfard, on évoquait avec Hubert Reeves ces points qui faisaient controverse dans les théories scientifiques. Alors, il y a cette question de Lucas qui nous arrive. Qu'en est-il du pari perdu de Hawking sur l'existence du fameux boson de Higgs ? Alors, c'est quoi d'abord son pari perdu ?
Stephen imaginait que... Enfin, le CERN, l'accélérateur de particules qui est à la frontière franco-suisse, à côté de Genève, cet accélérateur de particules a des énergies toujours plus grandes à chaque fois qu'on le remet à jour. Et du coup, en atteignant certaines énergies, on peut faire apparaître des nouvelles particules. L'ensemble de la communauté scientifique était persuadé qu'on trouverait le boson de Higgs de cette manière-là, qui est une particule nouvelle, disons, en tout cas nouvelle, pas encore trouvée. Et Stephen a préféré parier que non, parce que c'était, d'après lui, beaucoup plus intéressant qu'on ne le trouve pas ce qu'on s'attend à trouver.
Il y a d'autres paris qu'il a perdu.
Oui, il a perdu quasiment tous ses paris. Mais c'est parce qu'il mettait le point sur quelque chose. Perdre, il était content de perdre à chaque fois parce que ça voulait dire quelque chose d'extraordinaire s'était passé.
Nathalie Ruel, évidemment, c'est le physicien théoricien, Stephen Hawking, mais est-ce qu'il a aussi fait de l'expérimentation ou pas ?
Non, il n'a jamais fait d'expérience, mais il avait eu l'intention d'en faire une dans les années, tout début des années 70, avec son compagnon de toujours, son collègue et ami, Gary Gibbons. Il avait déposé un projet auprès des autorités financières de l'Angleterre pour monter une expérience de détection d'ondes gravitationnelles dans la cave du département de mathématiques appliquées. Et il s'était, m'a dit Gary Gibbons, bien fatigué pour faire un vrai projet. Et ils n'ont pas eu l'argent. Et maintenant, l'un comme l'autre reconnaissait que les autorités britanniques avaient bien fait de donner leur argent au groupe de Ron Drever, qui était à Glasgow à l'époque, Ron Drever ayant été un des artisans majeurs des grands détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont découvert les ondes gravitationnelles récemment.
Et énormément d'auditeurs qui nous écrivent au sujet d'une brève histoire du temps en soulignant quand même la complexité de cet ouvrage qu'on présente comme un grand livre de vulgarisation, mais pas grand monde n'est d'accord là-dessus, Nathalie Ruel.
Oui, j'ai une anecdote qui me vient de Andrei Linde, un autre grand nom de la cosmologie, un russe qui est maintenant à Stanford, qui était un jour dans un avion, racontait-il. À côté de lui, il y avait un homme d'affaires qui lisait une brève histoire du temps. Et Andrei Linde lui a dit, c'est un livre intéressant. Oh oui, c'est passionnant. Il dit des choses extraordinaires. Je vois l'univers d'un autre œil. Ce qui est la preuve que c'était un excellent livre de vulgarisation. Et Andrei Linde lui a demandé, et vous comprenez tout ? Oh bah oui, tout est très facile. Parce que vous, monsieur, vous avez lu ce livre ? Oui, a dit Andrei Linde. Et vous l'avez compris, bien sûr. Andrei a dit, non, je n'ai pas compris la fin du livre. Pas possible, a répondu l'homme d'affaires. C'est quoi votre métier ? Je suis physicien, monsieur.
Voilà, donc c'est rassurant pour tous ceux qui s'inquiéteraient de ne pas comprendre Stephen Hawking. Et vous, Christophe Galsard, vous avez eu la chance de signer un livre avec Stephen Hawking et sa fille, Lucie. C'était Georges et les secrets de l'univers, un livre à six mains, voilà, pour enfants qui était sorti en 2007. Exact. Et ça a été une collaboration aussi, une amitié qui s'est concrétisée au travers de ces lignes. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui rendre hommage à Stephen Hawking. Merci Daniel Chievé.
Merci à vous, Mathieu.
Et puis on signale Nathalie Dorel, la sortie aujourd'hui même de ce livre, Les ondes gravitationnelles, avec Jean-Pierre Lassota, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, merci Marie-Odile, à très bientôt.
Merci Mathieu.